VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour Nathalie Barge et Michel Joseph. Au sommaire ce 14 avril 2016.
En République du Congo, le collectif Tournons la page appelle à la fin des violences et à l'instauration d'un dialogue.
Au Tchad, le Parti pour les libertés et le développement dénonce des irrégularités lors du scrutin du 10 avril.
La CENI a refusé de façon délibérée d'envoyer des procès-verbaux de vote dans beaucoup de villages.
Mahamat Amat Alabou, candidat du PLD.
2 ans après l'enlèvement des filles de Chibok par Boko Haram, les parents appellent le gouvernement nigérian à intensifier les recherches.
La fièvre jaune qui sévit en Angola depuis décembre a gagné la RDC.
Au Niger, les associations féminines dénoncent leur faible représentation au sein du nouveau gouvernement.
Pour respecter leurs engagements, aussi bien le président de la République que le premier ministre devraient reproportionner le nombre de femmes en l'amenant au quota normal de 25% qui donnerait 10 femmes au sein du gouvernement.
Le 40e rapport annuel du département d'État américain sur les droits humains dénonce une crise mondiale de la gouvernance.
La milliardaire russe Yuri Milner, le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, et l'astrophysicien Stephen Hawking vont créer un vaisseau spatial hyper rapide à propulsion laser.
Et avant la Minute Éco et les sports, voici le journal.
Le groupe islamique Boko Haram a envoyé une preuve de vie 2 ans après l'enlèvement à Chibok, nord-est du Nigeria, de 276 lycéennes. Un événement qui sera commémoré ce jeudi par des prières et des manifestations à travers tout le pays. La chaîne américaine d'information CNN a rapporté mercredi que la vidéo montre une quinzaine de jeunes filles recouvertes d'un hijab noir qui donne leur nom, assure avoir été enlevé à Chibok et précise la date de l'enregistrement, le 25 décembre. Les 15 adolescentes ont été identifiées. Il s'agit de la première vidéo permettant d'établir que certaines des jeunes filles enlevées sont toujours en vie depuis celle diffusée par Boko Haram en mai 2014. Selon les informations dont dispose l'AFP, des membres de Boko Haram auraient pris contact mi-janvier avec le gouvernement, réclamant des discussions sur un possible échange de prisonniers.
Le gouvernement ayant demandé une preuve de vie, il aurait d'abord reçu 5 photos de certaines des otages, puis cette vidéo. Les parents des 219 lycéennes encore disparues, 57 étaient parvenus à s'enfuir peu après l'enlèvement, doivent tenir une réunion de prière jeudi devant l'école de Chibok où leurs enfants ont été enlevés.
En République du Congo, un collectif d'ONG baptisé Tournons la page a exigé hier la fin des violences et l'instauration d'un dialogue afin de sortir de la crise post-électorale née, selon cette coalition, de la victoire contestée de Denis Sassou Nguesso à l'issue de la présidentielle du 20 mars. Des précisions avec John Linden.
Dans un communiqué, la coalition Tournons la page exige l'arrêt immédiat des opérations militaires en cours dans le département du Pool, de même que le retour des soldats déployés sur le territoire dans leurs casernes et bien sûr l'ouverture d'un dialogue franc et sincère entre les acteurs politiques pour solder le contentieux sans faire appel aux armes. Le gouvernement a accusé le pasteur Ntoumi, ancien rebelle originaire du Pool, d'avoir commandité une attaque terroriste contre plusieurs bâtiments publics. Réfutant cette version, certains opposants accusent le pouvoir d'avoir commis un montage pour étouffer toute velléité de contestation des résultats officiels. M. Sassou Nguesso, qui cumule plus de 32 ans de pouvoir au Congo, a obtenu un changement de constitution validé par un référendum qualifié de coup d'État par ses détracteurs. Il a ensuite fait avancer au 20 mars la présidentielle prévue en juillet. Le 4 avril, la Cour constitutionnelle a validé les résultats officiels, donnant le chef de l'État sortant vainqueur dès le premier tour, avec plus de 60% des voix, ce que 5 des candidats d'opposition unis par un pacte anti-Sassou ont qualifié de forfaiture.
La fièvre jaune qui frappe l'Angola depuis décembre 2015 a gagné la RDC. Une 20aine des cas sont déjà confirmés par l'OMS et les autorités congolaises. Des détails avec Nanit Talani.
Pour le docteur Benoît Kebela Ilunga, directeur chargé de la lutte contre les maladies épidémiologiques au ministère de la Santé à Kinshasa, toutes les personnes atteintes sont des Congolais malades venus d'Angola et qui sont rentrés au pays pour se faire soigner. Il n'y a aucun cas autochtone. Aucune personne n'a encore contracté la maladie sur le territoire congolais. Pour contenir l'épidémie, les autorités congolaises ont renforcé la surveillance à la frontière avec l'Angola et à l'intérieur du pays. Les services de santé ont aussi entrepris une campagne de sensibilisation pour encourager les populations à éviter la prolifération des moustiques, vecteurs de la fièvre jaune, et à utiliser des moustiquaires imprégnés. Malgré toutes ces précautions, le risque de voir l'épidémie de la fièvre jaune se développer n'est pas totalement exclu. À cause du nombre élevé de personnes qui se déplacent entre la République démocratique du Congo et l'Angola, d'une forte proportion de personnes sensibles à l'infection et de la présence du type de moustique qui transmet la fièvre jaune, il y a un risque grave pour la maladie de se propager davantage, estime l'OMS.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le 40e rapport annuel du Département d'État américain sur les droits humains dénonce une crise mondiale de la gouvernance qui se traduit par une multiplication des attaques contre les libertés fondamentales et les valeurs démocratiques. Les détails avec Timothée Donangmae.
Le rapport accuse des régimes autoritaires à travers le monde de réprimer leur peuple avec une vigueur et une méchanceté croissante. Le secrétaire d'État John Kerry note dans le préambule une tendance croissante de la part à la fois d'acteurs étatiques ou non de contraindre l'espace de la société civile, d'étouffer la liberté des médias et d'Internet, de marginaliser les voix d'opposition et, dans les cas les plus extrêmes, de tuer des gens ou de les forcer à quitter leur foyer. Le document du Département d'État épingle en particulier des pays comme la Russie et la Chine, tout comme la Corée du Nord, l'Iran, le Soudan, mais il n'épargne pas les alliés des États-Unis comme la Turquie ou l'Égypte. Compilé par des diplomates américains, le rapport n'a aucune implication légale pour la politique étrangère américaine. Cependant, selon John Kerry, il renforcera la détermination des États-Unis à promouvoir les libertés fondamentales et à soutenir les groupes que Washington considère comme des défenseurs des droits de l'homme.
Après 5 ans de débat, le registre européen des données des passagers aériens, dit PNR, doit enfin être voté aujourd'hui par les eurodéputés en plénière dans une Union européenne en quête de nouveaux outils antiterroristes après les attentats de Paris et Bruxelles. Plusieurs comparutions doivent justement avoir lieu ce jeudi également à Bruxelles, dont celle de Mohamed Abrini, inculpé à la fois pour les attentats du 13 novembre à Paris et pour ceux du 22 mars en Belgique.
Panama Papers, le procureur panaméen chargé de la lutte contre le crime organisé, a écarté de prendre des mesures pour le moment contre le cabinet d'avocats Mossack Fonseca au terme de 27 heures de perquisition. Pour le moment, nous n'avons pas d'éléments probants qui nous permettent de prendre une quelconque décision contre la société ni contre ses dirigeants et employés, a déclaré à la presse Javier Caraballo.
Les négociations de paix sur la Syrie ont repris à Genève avec pour objectif la mise en place d'une transition politique mettant un terme à plus de 5 ans de conflit. Le gouvernement du président Bachar al-Assad a organisé le même jour des élections législatives dans les régions qu'il contrôle et n'enverra sa délégation que vendredi à Genève. Sur le terrain, la trêve entrée en vigueur le 27 février est menacée par une multiplication d'incidents et une possible offensive du régime pour reprendre la province d'Alep djihadistes du groupe État islamique et du Front al-Nusra.
États-Unis, Hillary Clinton et Bernie Sanders se retrouvent ce soir à New York pour un débat qui promet d'être tendu, tant l'enjeu est important pour les deux candidats démocrates à la présidentielle américaine. Je pense que ce sera animé, a commenté Madame Clinton à propos de ce débat qui précède les élections primaires dans l'État le 19 avril.
L'économie en Afrique et ailleurs, c'est dans la Minute Éco qui vous est présentée ce matin par Eric Manirakiza.
Les cultures OGM dans le monde ont marqué le pas en 2015 pour la première fois en 20 ans après avoir connu une croissance régulière. Par exemple, certains pays, notamment le Burkina Faso, leur tourne carrément le dos. En Afrique du Sud, c'est la sécheresse sévère qui a fait reculer les surfaces de maïs OGM d'environ 70 000 hectares, passant de 3 millions à 2,3 millions d'hectares, la diminution la plus forte d'au moins de 23 %. La première commercialisation d'une plante génétiquement modifiée date de 1996 et les surfaces cultivées en OGM atteignent près de 2 milliards d'hectares. La Banque mondiale envisage d'aider les pays pauvres à équiper 150 millions de foyers en énergie renouvelable d'ici à 2020. Pour financer ce plan, la branche de la Banque mondiale dédiée au secteur privé fera passer ses investissements pour des projets environnementaux de 2,2 milliards à 3,5 milliards de dollars par an. La Banque mondiale compte aussi mobiliser 25 milliards de dollars de prêts commerciaux pour financer des projets fondés sur les énergies propres sur les 5 prochaines années. Enfin, l'endettement des États continue de se creuser partout dans le monde et notamment dans les pays riches. Selon le rapport FMI Banque mondiale, l'endettement se rapproche des niveaux de l'après-Seconde Guerre mondiale.
Merci Eric pour cette page économie. À présent, les sports présentés par Nicolas Pineau. Bonjour Nicolas.
Bonjour Nathalie.
Champions League, le grand Barça de Lionel Messi est éliminé.
Oui, le bourreau s'appelle Antoine Griezmann, le Français auteur d'un doublé sur pénalty et de la tête. Pour l'Atlético Madrid, il élimine le FC Barcelone, victoire 2-0 des Colchoneros. L'histoire se répète puisqu'il y a deux ans déjà, l'Atlético Madrid avait éliminé le FC Barcelone au même stade de la compétition. Mené au score par le Benfica Lisbonne, le Bayern Munich ne s'est pas affolé afin de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions pour la cinquième saison de suite. Match nul, de partout, au Estadio d'Alus.
Pas d'Euro 2016 pour Karim Benzema.
Le joueur du Real Madrid mis en examen dans l'affaire du fameux chantage à la sextape confirme l'information sur son compte Twitter et la Fédération française de football a émis un communiqué. Malheureusement pour moi et pour tous ceux qui m'ont toujours soutenu et supporté, je ne serai pas sélectionné pour notre Euro en France, a tweeté le joueur star du Real de Madrid. Je vous rappelle que l'Euro 2016 débutera dans moins de deux mois. Le 10 juin, il s'achèvera le 10 juillet en France. Et pour terminer, Nathalie, les résultats de la NBA, le championnat de basket nord-américain. Ce matin, on dit bye-bye à un grand champion, Kobe Bryant.
Et oui, en effet, tout d'abord, les résultats, une victoire de Houston Rockets face aux Sacramento Kings, 116 à 81. Toronto face aux Brooklyn Nets, ils l'ont emporté par 103 à 96. Les Los Angeles Clippers face à Phoenix, une défaite, 105 à 114. Une défaite également des Denver Nuggets face à Portland, 99 à 107. Et Golden State Warriors bat le record de Chicago avec une 73e victoire en 82 matchs face à Memphis, 125 à 104. Utah Jazz, Los Angeles Lakers, 96 à 101. Et oui, il faut le dire, une véritable star a tiré sa révérence la nuit dernière aux États-Unis. Kobe Bryant, l'emblématique joueur des Los Angeles Lakers, part à la retraite à l'âge de 37 ans après avoir porté pendant 20 ans son célèbre maillot jaune et violet avec ses 5 titres de champion NBA, son double titre olympique et ses plus de 33 500 points marqués au cours de sa carrière. Il est considéré comme l'un des 5 meilleurs joueurs de tous les temps.
Yeah. Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. Les Tchadiens attendent les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 10 avril qui mettrait aux prises le président Idriss Déby Itno et 12 adversaires. Mercredi, le Parti pour les libertés, le développement, le PLD, a tenu un point de presse à N'Djamena pour dénoncer de nombreuses irrégularités lors du scrutin. Timothée Donangmaï a joint le candidat du PLD à la présidentielle, Mahamat Amat Alabo.
Le code électoral explique que les listes électorales doivent être affichées 3 jours à l'avance. Ils n'ont pas voulu respecter cette disposition, ils ont affiché ça le jour du vote. Beaucoup de gens n'étaient pas capables de trouver où se trouvait leur bureau de vote pour voter. Plus grave, la CENI a refusé de façon délibérée d'envoyer des procès-verbaux de vote dans beaucoup de villages, dans beaucoup de bureaux de vote. Autre chose, plus grave, nous avons constaté le premier jour du vote, c'est-à-dire le 9, les militaires ont voté de façon non transparente, non libre, parce que les officiers étaient là et imprimaient l'ordre aux votants de prendre tel ou tel candidat. Quelques téméraires ont refusé de tempérer, ils ont été battus, molestés et arrêtés. Nous avons aussi constaté beaucoup d'ingérences, ne soit des autorités administratives, des militaires, des autorités traditionnelles, les chefs de canton, les chefs de village, les chefs de carré, les délégués. Et tout ce monde-là s'est ingéré de façon ostentatoire pendant le processus du vote. Beaucoup de nos délégués ont été arrêtés, molestés et emprisonnés.
Que comptez-vous faire par rapport à ces irrégularités que vous dites avoir constatées?
La loi nous donne la possibilité de le contester devant le Conseil constitutionnel, ce que nous allons tenter de faire. Mais en même temps, nous avons aussi constaté, malgré ces nombreuses irrégularités, que le peuple qui est sorti et qui a pu voter, le bureau de vote où il y avait des PV, etc., le peuple souverain du Tchad a massivement voté pour l'opposition. Par exemple, dans les deux zones, la population a choisi le candidat du CPPD, sur la zone de Mardin-Mundi. Dans le Mandoul et dans le Moin-Chari, la population a de façon massive voté pour le candidat du Cap-Sur et le candidat de l'IFDPR. Dans le Mayo-Kébi, en général, les deux Mayo-Kébi, la population a choisi le candidat de l'UNDR. Dans le label géographique, dans son ensemble, la population a choisi massivement le candidat du PLD. Et donc, toutes ces données réunies nous permettent de dire qu'il est impossible qu'un candidat puisse passer au premier tour.
Mahamat Amat Alabo, candidat du Parti pour les libertés et le développement à la présidentielle tchadienne du 10 avril dernier.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Plein feu sur la pré-scrutin présidentiel au Tchad. Un vote dans le calme, mais l'inquiétude gagne le pays. Dans l'attente des résultats déjà contestés, le Tchad se dirige-t-il vers une crise post-électorale? Que signifie pour le pays et la région un éventuel cinquième mandat d'Idriss Déby Itno après 26 ans au pouvoir? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
2 ans jour pour jour, le Nigeria se souvient de l'enlèvement des filles de Chibok par Boko Haram. C'est aussi une occasion pour demander au gouvernement d'intensifier les recherches et de les retrouver. Mais l'espoir diminue chez certains, tandis que d'autres font toujours confiance aux autorités. Pour savoir dans quelle ambiance les Nigérians vont marquer cet anniversaire douloureux, Eric Manirakidza a joint un habitant à Abuja, Joël Oluwaseun.
Il y a d'autres qui pensent que le gouvernement, un jour à un autre, va ramener les filles. Mais il y a d'autres qui n'y pensent plus. Alors, si nous voulons voir du côté des parents, de cette fille enlevée. C'est vrai que c'est un coup dur pour ses parents, mais cette nouvelle administration veut toujours leur donner une lueur d'espoir parce que l'administration essaie de leur dire que le gouvernement est en train de travailler très dur pour ramener les filles. C'est vrai, c'est évident que les terroristes ont ces derniers jours subi beaucoup de tempêtes de la part des militaires nigériens. Mais alors, on se demande, avec ce système militaire sur le terrain, pour le moment, on attend toujours voir ce qui va se passer.
C'est quand même bizarre qu'on ne parvient pas à les retrouver.
C'est bizarre. Et c'est pourquoi des gens disent souvent, bon, selon les opinions publiques, on n'est pas sûr si ces filles sont toujours ensemble. On ne croit plus si ces filles sont toujours au Nigeria. Avec les attentats, la bombe perpétrée par des jeunes filles au nord-est du Nigeria, tu peux savoir que peut-être ce sont ces filles qui sont utilisées pour commettre des attentats un peu partout au nord-est. Mais comme je viens de le dire, on espère toujours, on veut toujours garder espoir.
Y a-t-il des mesures qui ont été prises pour qu'il n'y ait plus kidnapping de plus du genre?
Bon, vous savez, au Nigeria, en général, le kidnapping devient de plus en plus fréquent. Et les mesures prises par les autorités, c'est tout d'abord de sensibiliser le public, d'être plus vigilant, de faire beaucoup attention surtout, parce que, par exemple, si je prends l'exemple du sud-est ou bien du sud-sud, le kidnapping là-bas, c'est monnaie courante. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire preuve d'attention et de vigilance.
Joël Oluwaseun était joint à Abuja, au Nigeria.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Au Niger, les associations féminines montent au créneau pour dénoncer leur faible représentation au sein du gouvernement mis en place il y a 2 jours. Les femmes représentent à peine 20% de l'équipe de Brigui Raffini, alors qu'une loi exige une représentation d'au moins 25% dans les nominations. Voici un reportage à Niamey d'Abdulrazak Idrissa.
Nous, associations féminines, tous bords confondus, sommes indignés et frustrés par le non-respect du quota par les autorités de la 7e République et les partis politiques de leur ensemble.
Elles étaient toutes présentes, les responsables des différentes associations féminines de l'ensemble des secteurs de la vie sociopolitique, économique, culturelle et religieuse du Niger. Un seul mot d'ordre, dénoncer le non-respect d'une loi qui voudrait que les femmes soient représentées à au moins 25% dans les nominations. La raison, le nouveau gouvernement de désormais 40 membres ne compte que 8 femmes.
8 femmes, ça représente 20% du quota, pas 25%. Donc, j'estime que pour rendre justice à la femme nigérienne et pour respecter leurs engagements, aussi bien le président de la République que le premier ministre devraient reproportionner le nombre de femmes en l'amenant au quota normal de 25% qui donnerait 10 femmes au sein du gouvernement.
Nous disons que l'erreur est humaine et nous osons espérer que le président de la République et son gouvernement vont très rapidement prendre des dispositions pour corriger le tort commis d'abord aux femmes, pour corriger la violation de la loi, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Le président de la République, c'est le garant du respect des dispositions réglementaires. Nous pensons que ce n'est pas lui qui va commencer avec cet acte. Nous sommes convaincus que cette erreur va être corrigée très rapidement. Mais dans tous les cas, il faut dire que les femmes nigériennes que nous sommes, tous bords confondus, ne sommes pas prêtes à accepter cet état de fait.
Les associations féminines nigériennes se préparent si les autorités ne reviennent pas sur cette composition du gouvernement pour la conformer à cette loi, à saisir les tribunaux.
Nous nous réservons le droit de saisir les juridictions compétentes en la matière afin de faire respecter la loi. Exigeons le respect de la loi sur le quota pour tout autre poste de nomination.
Abdelazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
VOA Afrique au Niger à Niamey, 24 heures sur 24 sur 102.5 FM. Youri Milner, un milliardaire russe, s'est associé avec le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, et l'astrophysicien Stephen Hawking pour explorer les étoiles à l'aide d'un vaisseau spatial à voile. Lionel Gaïma nous en dit plus sur cette future aventure interstellaire.
C'est un rêve fou, mais vieux comme le monde. Le milliardaire russe Youri Milner s'est associé à Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, et Stephen Hawking, le célèbre astrophysicien britannique, pour le réaliser. Leur projet, créer un engin spatial à voile extrêmement rapide pour un voyage intergalactique. Youri Milner en a présenté une maquette mardi lors d'un point de presse à New York.
This is the Starship.
Voici le Starship, une lamelle qui pèse à peine 1 gramme, dotée d'une caméra, d'une batterie, d'un système de navigation et de communication. L'idée est de propulser l'engin à un cinquième de la vitesse de la lumière en le bombardant des photons produits par un laser basé sur Terre. Cela permettrait au vaisseau d'atteindre une vitesse de 60 000 km par seconde. À titre de comparaison, la sonde américaine New Horizons, qui a atteint Pluton l'an dernier, avait une vitesse de 49 km par seconde. Starship ne mettrait que 20 ans pour atteindre Alpha du Centaure. Le groupe d'étoiles le plus proche de la Terre est situé, excusez du peu, à 40 000 milliards de kilomètres. Youri Milner, dont la fortune est estimée à 2,9 milliards de dollars, a annoncé qu'il va débourser 100 millions de dollars pour ce projet baptisé Breakthrough Starshot. Le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, fait partie du conseil d'administration qui aura besoin des compétences scientifiques de Stephen Hawking pour aider à faire ce grand bond dans l'espace. Le célèbre astrophysicien cloué sur son fauteuil roulant est déjà prêt. Je pense que ce qui fait que nous sommes uniques en tant qu'êtres humains est que nous dépassons nos limites. La gravité nous cloue au sol, mais je viens juste de m'envoler vers l'Amérique. Comment faire ce grand saut vers les étoiles? Dans les années 1960, John Fitzgerald Kennedy voulait conquérir la Lune. Maintenant, des vols touristiques sont organisés vers la Lune à prix d'or. Les sondes à grande vitesse pourraient permettre d'explorer le système solaire, chercher des traces de vie et pourquoi pas découvrir des extraterrestres. Pour les trouver, peut-être même que nous n'aurons pas besoin d'aller si loin, d'après le chercheur américain Freeman Dyson. L'espace entre nous et Alpha du Centaure n'est pas vide, ce n'est pas un énorme trou noir à traverser pour atteindre quelque chose d'intéressant de l'autre côté. Bien au contraire, il y a entre les deux des milliers d'objets dans l'espace. Des astéroïdes, d'autres petites planètes sur le chemin font que ce voyage pourrait prendre au moins 20 ans et au moins 4 ans pour transmettre les informations sur Terre.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au programme, Island Music, de la bonne musique des Antilles et Caraïbes. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h, temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140. Vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-3731. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Ainsi va le monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Michel Joseph. Avec vous à la présentation, c'était Nathalie Barge. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com pour l'info 24h sur 24. Bon jeudi à toutes et à tous.